Eh bien, merci beaucoup pour cette fort aimable introduction et pour l'opportunité qui m'est donnée de venir parler dans cette noble institution. C'est même deuxième ORL, ça m'enthousiasme complètement. C'est juste un propos liminaire. Je vais certainement vous imposer un exercice qui est difficile. C'est un double changement d'échelle inversé. On sort des molécules, de la cellule, et on va parler de l'être, de l'humain dans son entier, avec son système auditif, mais peut-être aussi un peu sa psyché. Donc on va partir de l'infiniment petit pour aller vers la globalité du système. Et ensuite, comme il l'a été un peu souligné tout de suite, on va passer du professeur Christine Petit au docteur Alain Londero. Donc là, pour le coup, c'est inverse. Vous m'excuserez de cette différence que je reconnais. Et je vais vous demander de garder ça tout le temps en tête. C'est qu'on parle du corps humain, c'est mon rôle de clinicien. Et je vais essayer d'être très pragmatique, de ne pas aller dans des discours trop compliqués, même si on peut être très compliqué en médecine. Je vais essayer de faire simple pour que ce soit intelligible, même pour les non-spécialistes dans cette salle, et j'en connais. Alors, tout d'abord, et c'est une notion importante, il faut savoir de quoi on parle. On va parler d'acouphènes, et je vais essayer de vous donner une définition la plus précise possible de ce qu'on entend par ce terme-là. D'abord, il faut savoir qu'acouphène, ça vient du grec akouein, entendre, et que ce symptôme, qui est le fait d'entendre un bruit dans ses oreilles ou dans la tête, est décrit depuis la plus haute antiquité. Et je vous ai ici mis une photocopie de mon dictionnaire de latin quand j'étais tout petit. Et déjà, Pline parlait de bourdonnement d'oreille en utilisant le terme tinnitus, qui est le terme utilisé en anglais pour qualifier les acouphènes. Je trouve toujours ça très curieux que les latins utilisent un terme grec et que les anglo-saxons utilisent un terme latin. Ça fait partie des charmes de la variété, de la façon dont on appréhende ces problèmes cliniques. Donc, on entend quelque chose, comme le dit l'étymologie, on l'entend depuis la plus haute antiquité, Hippocrate, les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens en parlaient dans leurs traités de médecine, et on distingue schématiquement deux grands types d'acouphènes. Les acouphènes dits objectifs, que quelqu'un d'autre est capable d'entendre, et les acouphènes dits subjectifs, que seul le patient est capable d'entendre et qu'on n'est pas capable d'enregistrer de quelque façon que ce soit au jour d'aujourd'hui. Les acouphènes objectifs sont rares, mais ils méritent d'être connus par le clinicien que je suis, parce que ça n'est pas du tout la même prise en charge que celle des acouphènes subjectifs, qui sont l'extrême majorité des cas, 95% des cas, et dont on parlera longuement, et qui seront le centre et le cœur de ce que je vais vous exposer au cours de cette conférence. Alors, pour être plus clair, et pour vous montrer ce que c'est qu'un acouphène objectif, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de belles images pour montrer des choses compliquées. Donc, vous avez ici une image de tympan normal. Si je trouve la façon d'utiliser ce pointeur. Vous avez ici la membrane tympanique, qui est une membrane fine, translucide. Ici, le premier osselet, qui est le marteau, qui est enchâssé dans la membrane tympanique et qui va servir à la transmission du son. On va faire disparaître cette image au profit d'une courte vidéo où vous allez voir un acouphène objectif pulsatile, où vous allez voir le tympan, qui devrait apparaître incessamment sous peu, qui est ici enflammé, que vous voyez battre au rythme du cœur. Si je colle mon stéthoscope sur l'os qui est derrière l'oreille, la mastoïde, j'entends psh, psh, psh. Et le patient me dit qu'il entend le bruit de son cœur dans son oreille. Je peux le constater, je peux l'écouter, je peux même l'enregistrer. Ce cas est un cas d'acouphène objectif d'origine vasculaire. Je vais vous montrer un autre cas d'acouphène objectif. Le patient arrive à la consultation, il dit qu'il entend un claquement dans son oreille. Je regarde son tympan et je vois la membrane tympanique se contracter à un rythme différent de celui du cœur. On voit très bien le tympan qui se contracte. C'est une contraction musculaire, ce qu'on appelle une myoclonie. d'un petit muscle qui est à l'intérieur de l'oreille, qui est le muscle qui soutient le premier osselet, qui est le marteau. Et donc là également, le patient me déclare qu'il entend un claquement, je regarde son tympan, je vois ce qu'il entend, je peux m'exprimer ainsi, je peux enregistrer ce qu'il entend. Il a donc là aussi un acouphène objectif et ça nécessite une prise en charge particulière qui peut, dans ce cas-là par exemple, se solder par une intervention chirurgicale qui va aller sectionner le petit muscle pour faire cesser immédiatement la symptomatologie. Ce sont des cas rares, 5%, ils méritent d'être connus, et nous n'allons pas parler de cela, nous n'allons parler que des acouphènes subjectifs, qui sont ceux que le patient entend et que moi, médecin, clinicien, je ne peux pas visualiser. Alors, la définition d'un acouphène, c'est une perception qui peut être invalidante, qui peut entraîner une gêne parfois extrêmement importante chez certains patients, d'un son qui est ressenti dans les oreilles ou dans la tête et qui n'est pas enregistrable et qui surtout ne répond à aucune stimulation interne, on vient de le voir, ni même externe. Ce n'est pas le bruit de l'antenne relais, le bruit du voisin, c'est juste une perception qu'on a et pour laquelle il n'y a pas de stimulation sonore correspondante à l'intérieur de l'organisme ou à l'extérieur. Et il est quelques notions qu'il est important de connaître sur ces acouphènes subjectifs, en particulier une qui est, à mon sens, fondatrice de la façon dont on a aujourd'hui d'appréhender ce problème-là, c'est que l'acouphène peut persister après une section totale du nerf auditif, voire une destruction complète de l'oreille. Ça arrive chez certains de nos patients qui ont des kystes sur le nerf auditif, qu'on opère, on fraise l'oreille, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les structures de l'oreille, on sectionne le nerf. Ces patients sont totalement sourds, ils n'ont plus d'oreilles du tout, et pourtant, ils ont un acouphène. Et l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que toutes les études le confirment, il n'existe aucune corrélation entre l'intensité du signal lui-même, ce que décrit le patient, ce qu'il perçoit, et on va le voir tout de suite, quels sont le type de sons que les patients peuvent percevoir, et l'intensité de la gêne que ça produit. Ça fait de l'acouphène subjectif, un symptôme qui est extrêmement déroutant. Parce que pas de corrélation entre l'intensité de la gêne et l'intensité de la perception. Persistance, même après ablation totale du système auditif périphérique, et un symptôme qui n'est même pas enregistrable. Pour être très clair, je vais, et j'espère que ça ne sera pas trop fort, parce qu'on n'a pas testé tous les sons audio, mais on s'arrêtera si nécessaire. Je vais vous faire entendre. C'est même pas assez fort. Donc, je suis désolé. Je vais essayer d'augmenter un peu le son. Ça passe bien. Vous entendez ici un sifflement qui est un acouphène qui a été recréé par une de mes patientes avec un logiciel spécifique qu'on a développé à l'hôpital européen Georges Pompidou pour essayer de recréer les sons de façon à ce qu'ils ressemblent le plus possible à leur acouphène. Donc maintenant, vous savez ce qu'est un acouphène subjectif et même ce qu'entendent certains patients après avoir entendu le sifflement que je viens de vous faire entendre, en sachant qu'eux, ils l'entendent tout le temps. H24, du matin au lever, jusqu'au moment où ils s'endorment, et probablement même pendant la nuit. On l'a dit tout à l'heure, l'acouphène subjectif est un symptôme déroutant par ses caractéristiques mêmes. Il est déroutant pour le médecin, parce qu'il n'y a pas de mesure objective du symptôme, et nous, on aime bien pouvoir mesurer une pression artérielle, mesurer la température corporelle, mesurer le rythme cardiaque, et ainsi de suite. Et l'acouphène, on ne sait pas le mesurer. On n'a aujourd'hui aucune alternative thérapeutique curative consistante. Et en particulier, aucun traitement médicamenteux n'a d'autorisation de mise sur le marché spécifique pour cette indication-là. Et ça peut conduire certains de mes collègues à dire « je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quoi faire », à taper sur l'épaule du patient lui disant « mon bon monsieur, ma brave dame, il va vous falloir apprendre à vivre avec », ce qui pour les patients est souvent une sorte d'arrêt de mort quand ils sont dans une demande qui est une demande extrêmement importante de soins et de prise en charge. Et c'est également un problème pour le patient parce que le patient a du mal à décrire ce qu'il ressent. C'est très difficile de parler d'une de ses perceptions. peut discuter pendant des heures du type de bois qui est au mur, là, et on n'aura probablement pas tous la même impression, enfin, même certainement pas tous la même impression, ni la même façon de le décrire, et décrire une perception auditive en particulier, on manque de vocabulaire pour dire ce qu'on ressent. Il y a un sentiment d'invulnérabilité, parce que les patients consultent de façon itérative, ils vont voir des neurologues, des ORL, des ostéopathes, des chiropracteurs, des homéopathes, et ainsi de suite. Et finalement, personne ne leur apporte de réponse adéquate, en tout cas celle qu'ils attendent. Ils sont dans un sentiment d'échec et d'incompréhension, et ça induit de façon absolument certaine, chez bon nombre de patients, une demande de soins extrême, avec un humanisme médical qui est majeur, et qui justifie le titre de cette intervention, c'est que si on met un tout petit peu de rationalité dans un domaine complexe, surtout quand c'est un domaine clinique, le plus souvent, on améliore la compréhension du phénomène parce qu'on comprend mieux les modèles physio-pathologiques qui éventuellement peuvent sous-tendre la perception du patient, et ensuite on peut éventuellement en déduire des prises en charge utiles parce qu'on a un peu mieux compris ce qui se passe. Au niveau de ce qui est le modèle physiopathologique, donc la cause, l'origine du phénomène, et donc on peut appliquer des stratégies qui sont un tout petit peu plus efficaces. On va donc commencer par, et ça c'est le travail que devrait faire tout médecin clinicien, commencer par se poser la question de comment le problème est réparti dans la population générale, et ensuite d'essayer de comprendre quel organe ça touche et comment fonctionne le système, en l'occurrence le système auditif, dans lequel cet acouphène arrive. Alors, et on l'a vu tout à l'heure avec le cours du professeur Petit, les problèmes auditifs sont des problèmes fréquents, et on estime aujourd'hui que 20% de la population française a un problème auditif, que ce soit déficit auditif, acouphène ou hyperacousie. Si on s'en tient juste à l'acouphène, des collègues belges de l'université d'Anvers ont en 2012 fait une étude épidémiologique dans leur université, à Anvers, donc, en demandant aux étudiants combien avaient déjà eu un acouphène intermittent après une exposition sonore dans une boîte de nuit, un concert ou autre. La réponse, c'est quasi tout le monde. Il y a 90% des jeunes qui aujourd'hui déclarent avoir eu un acouphène transitoire après une exposition sonore intempestive. Et ce qui est extrêmement alarmant, c'est quand on demande à des jeunes de 18 à 25 ans combien ont un acouphène permanent qui témoigne certainement de lésions auditives, que ce soit au niveau des cellules ciliées ou au niveau des neurones derrière, l'association des deux étant possible, 1 sur 6 dit oui. Quand on sait que l'espérance de vie de ces jeunes-là est 90, 95 ans probablement, s'il ne nous arrive pas de malheur, la vie des ORL de mes collègues futurs est certainement pavée d'or parce qu'ils auront des clients jusqu'à la fin des temps. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que seulement 10% de ces jeunes prennent des mesures de protection vis-à-vis de la toxicité potentielle du bruit auquel ils se soumettent, que ce soit dans leurs activités de loisirs ou que ce soit même dans leurs activités professionnelles par la suite. Il y a donc un vrai souci à la fois épidémiologique et de santé publique vis-à-vis de ce problème auditif qu'on peut tenter de résoudre comme on essaye de le faire nous en clinique au jour le jour, ou bien le professeur Petit en essayant de découvrir les mécanismes moléculaires intimes qui conduisent à cette susceptibilité et aux techniques ou moyens thérapeutiques ou de prévention qu'on peut mettre en œuvre. Les voies auditives, je vous ai mis ici une toute petite vidéo de reconstruction 3D d'une cochlée et d'un labyrinthe en IRM. Donc on a aujourd'hui des moyens d'imagerie qui sont extrêmement pointus, qui permettent de voir quasiment l'intérieur du labyrinthe et les structures de périlymphatiques qui sont à l'intérieur de l'oreille pour jauger de si elles sont normales ou pas. On ne peut pas voir les cellules, bien sûr, mais on a quand même une idée morphologique de ce qu'est le système auditif périphérique tout à fait sympathique et tout à fait profitable. On peut distinguer, et à mon sens c'est probablement une erreur, parce que tout ça doit bien sûr fonctionner de façon conjointe, ce n'est qu'artificiellement qu'on sépare le système auditif périphérique du système auditif central, mais on va le faire quand même pour plus de simplicité. Donc ce qui est le système auditif périphérique, avec l'oreille externe, le conduit auditif, le tympan, la chaîne des osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le dernier osselet, l'étrier, donc, qui rentre donc, à l'intérieur de l'oreille interne quand il est stimulé par la vibration sonore. Ensuite, ici, la cochlée avec les cellules ciliées qui ont été ici grossies. Cellules ciliées internes, cellules ciliées externes, dont on vous a déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas revenir sur la physiologie de cet organe. Et cet organe va envoyer par le biais du nerf auditif donc, des informations au noyau cochléaire dorsaux, puis au complexe olivaire, qui sont déjà là des systèmes qui vont faire un traitement du signal qui est déjà extrêmement complexe, recevant d'ailleurs des informations qui viennent d'autres systèmes, en particulier le système somatosensoriel, et ça peut avoir un intérêt dans la prise en charge de certains patients acouphéniques. Mais, par exemple, au niveau des complexes olivaires, se fait déjà la localisation spatiale des sons qui permet de savoir si un son vient plutôt de la droite ou plutôt de la gauche, plutôt central en face ou plutôt derrière soi. Et déjà là, il y a un traitement qui est complexe. Ensuite, au niveau de structures sous-corticales, qu'on appelle, une en particulier, qu'on nomme le colliculus, qui va agir comme une sorte de filtre en fait, sur les voies auditives pour ne pas laisser passer l'information qui n'est pas pertinente. On est bombardé en permanence d'informations auditives qui, bien sûr, n'ont pas toutes le même niveau d'intérêt et bon nombre sont négligées. Pensez au frigo dans votre cuisine ou à la ventilation que fait cet ordinateur ou à la ventilation de la pièce ou au bruit de la mer quand vous êtes à la mer ou au bruit des cigales quand vous êtes en Provence. Votre cerveau est bombardé d'informations auditives que vous filtrez et une des zones de filtrage, c'est ce colliculus. Il y a ensuite la mise en relation, et c'est importantissime d'un point de vue clinique, des voies auditives avec les voies de l'émotion et de la mémoire. C'est ce qui fait la beauté de la musique, hein, c'est ce qui fait qu'on va être, pour certains, enthousiasmé par Jean-Sébastien Bach et pour d'autres par Johnny Hallyday, peu importe. Mais on a emmagasiné, oui, je préfère Jean-Sébastien Bach, on a emmagasiné en mémoire des sons. Ces sons, on leur attribue une valeur émotionnelle et si on les re-rencontre, on va les comparer à ce qu'on a en mémoire et on va leur attribuer une valeur émotionnelle qui dépend bien sûr du vécu de chacun d'entre nous. Et l'acouphène, en tant que perception sonore, peut être connoté de la même façon. On peut attribuer une valeur émotionnelle négative à l'acouphène, on peut le mémoriser d'une certaine façon, et il sera ensuite bien difficile pour le cerveau de le traiter d'une autre façon que d'une façon agressive, comme un signal agressif ou un signal qui a été mémorisé de façon négative. Et seulement ensuite, une activation corticale, qui est une activation qui respecte, et c'est un mot qui est essentiel en fait dans la prise en charge de l'acouphène, qui respecte la tonotopie, qui est celle dont on vous a déjà certainement parlé quand on vous a parlé de la cochlée. C'est-à-dire que le traitement du signal dans le système auditif, que ce soit en périphérie ou dans les centres, va respecter un codage en fréquence qui va faire que chaque fréquence va être traitée par quelques cellules ciliées spécifiques, par quelques fibres du nerf auditif spécifique, va être traitée dans le noyau cochléaire dorsal par certains neurones de façon spécifique qui vont envoyer ces informations qui seront également traitées tonotopiquement au colliculus, qui seront traitées tonotopiquement au niveau des corps genouillés médians, donc de cette mise en relation avec l'émotion et la mémoire, et ensuite traitées tonotopiquement, je vais réussir à le dire, au niveau du cortex auditif primaire, puis envoyées à des centres qui sont plus haut situés. Et quand on a compris que le rôle du système auditif, finalement, c'est de prendre une information périphérique et complexe, de la transformer de mécanique qu'elle est, en impulsion électrique pour que le cerveau puisse la comprendre, et que le principal facteur de cette transformation, c'est finalement de respecter les fréquences pour que, tout le long du traitement du système, la spécificité fréquentielle soit conservée, on va avoir quelques clés d'analyse sur ce qui fait que les acouphènes apparaissent le plus souvent en fonction d'une perte auditive, et on le verra de façon plus précise tout à l'heure. Alors, le grand modèle actuel d'explication de l'extrême majorité des patients qui ont un acouphène subjectif, c'est de dire que ces patients souffrent d'une déafférentation. Et effectivement, en pratique clinique, on constate, nous, cliniciens, qu'au moins 8 patients sur 10, mais c'est probablement tous si on va chercher finement les lésions avec des tests qui sont plus précis que la simple audiométrie, tous nos patients, ou quasiment, ont un problème auditif périphérique. que ce soit le traumatisme sonore, dont on a vu l'importance chez les jeunes, la presbyacousie qui touche tous ceux qui vont, ou quasiment tous ceux qui vont franchir la cinquantaine, l'autotoxicité, on en a longuement parlé avec le professeur Clotty, ou d'autres maladies comme la maladie de Ménière, dont on attribue un problème d'hyperpression dans l'oreille interne et qui peut entraîner une surdité, un acouphène et des vertiges, des pathologies infectieuses, que ce soit des pathologies infectieuses d'oreille moyenne ou d'oreille interne, on peut citer les otites chroniques, on peut citer les labyrinthites ou autres pathologies de ce type-là, qu'elles soient virales ou bactériennes, et des lésions tumorales, comme par exemple le neurinome de l'acoustique, qui est une tumeur bénigne qui va pousser, non pas sur le nerf auditif, mais sur le nerf vestibulaire qui n'est pas loin, qui va comprimer progressivement le nerf auditif et qui va entraîner à la fois une perte auditive et un acouphène du côté de où la lésion se trouve. Et donc finalement, on peut statuer de façon très certaine qu'au début, l'acouphène est effectivement un problème périphérique. Toutes ces maladies-là, même les lésions tumorales du nerf, elles ne sont pas très loin situées de la cochlée. Elles vont léser les cellules ciliées externes, les cellules ciliées internes, la première synapse, le nerf, elles sont très périphériques. Mais ce qui est sûr également, c'est qu'on ne peut pas rendre compte de ce qu'est un acouphène, ni psychoacoustiquement, ni cliniquement, uniquement en s'en tenant à cette lésion périphérique. J'en reviens à ce que la remarque que je faisais au tout début de la présentation, c'est que certains patients n'ont plus d'oreilles, ils n'ont même plus de nerfs, le nerf a été coupé, et ils ont quand même un acouphène. Ce qui veut dire que séparer artificiellement la partie périphérique du système et la partie centrale n'a probablement pas beaucoup de sens. Et finalement, le grand modèle actuel, c'est de dire que finalement, il existe certes une lésion périphérique, mais que cette lésion périphérique va induire des dysfonctionnements étagés dans tout le système auditif central, ce qui peut expliquer que vous pouvez localiser votre acouphène à droite ou à gauche en fonction de l'activation différente des complexes olivaires, que vous pouvez filtrer ou pas votre acouphène, ce qui va éventuellement faire un acouphène bien toléré cliniquement ou un acouphène qui ne l'est pas parce qu'il est constamment perçu, avec une émergence du signal en permanence, que vous pouvez activer vos cortex auditifs et donc avoir une présence consciente de l'acouphène qui va être présente, s'imposer quasiment à toutes les situations de la vie quotidienne, et que vous pouvez avoir des activations d'autres cortex qui vont faire que vous pouvez même gérer l'acouphène comme un signal d'alerte, un peu comme si vous étiez en permanence soumis à une menace constante qui va vous mettre dans un état de stress qui est extrêmement contre-productif et extrêmement problématique pour les patients. Donc finalement, on réunit, on fait se rejoindre cette vision périphérique, qui est la vision dont on vous a parlé tout à l'heure, de cochlée, de cellules, de lésions au niveau du nerf, et une vision plus globale du système, qui est le système périphérique, certes, comme capteur, mais aussi le traitement du signal, et ce traitement du signal n'est certainement pas neutre dans la façon dont nos patients expriment leur doléance et dans la façon dont nous, médecins, cliniciens, on doit essayer de répondre pour tenter de les soulager au mieux.
Si on en vient
à essayer de rendre compte, de donner une explication un tout petit peu plus tangible à cette histoire de déafférentation, on peut s'appuyer sur des travaux qui sont des travaux assez anciens maintenant, de l'équipe de Norena, qui à l'époque était à Lyon et qui maintenant est à Marseille. Donc c'est un chercheur français spécialisé dans l'audition, qui plutôt spécialisé d'études chez l'animal, mais il s'est préoccupé de sujets, de patients parfois. Et là, il a montré, c'est une démonstration très élégante, que quand on demande au patient de décrire son acouphène en termes spectral, ce que le patient décrit, en fait, c'est une sorte d'image en miroir de sa perte auditive. Vous avez ici, en blanc, la perte auditive, donc ici, les seuils sont normaux, et puis ensuite, ils s'abaissent jusqu'à atteindre des valeurs qui sont assez altérées ici. Et le patient décrit un acouphène qui va être une sorte de description de ce qui manque, on va dire. C'est vrai pour cet autre patient, on a la perte auditive, et ici le tracé de l'acouphène. Pour cet autre patient, on a l'impression que l'acouphène la vient remplir, le niveau de perte auditive. C'est vrai aussi ici, c'est vrai aussi ici, c'est vrai aussi ici. Et c'est un pattern qui est assez consistant. Et en fait, en clinique, pour savoir ce que le patient perçoit, le plus souvent, et le plus simple pour moi, c'est de regarder son audiogramme. Et s'il a une perte auditive sur les fréquences aiguës à gauche, eh bien, il va entendre un sifflement à gauche. Et si la perte auditive est à 6000 Hz, le plus souvent, l'acouphène est perçu dans cette gamme fréquentielle, comme le montrent les travaux pionniers de Norena. Et finalement, ça, c'est une sorte d'illusion perceptive. n'y a pas d'entrée sensorielle et on va percevoir quelque chose qui n'existe pas, ou qui n'existe plus, ou qui a été altéré. Et en fait, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on a des modèles qui permettent de rendre compte, à la fois dans d'autres systèmes sensoriels, et encore mieux dans le système auditif, de perceptions qui pourraient émerger parce qu'on enlève quelque chose au système. Alors, en vision, ça a été, dans le domaine visuel, ça a été montré il y a très très longtemps, ça, vous connaissez probablement ça, cette illusion dite de Kanizsa, on va enlever quelque chose, et vous allez voir apparaître un triangle, qui n'existe pas. Hein. C'est juste, on a enlevé un peu de substance au rond, et le triangle émerge. Et c'est impossible de ne pas le voir. Ça peut être plus compliqué que ça, d'ailleurs. Ici, vous avez 8 ronds noirs, à qui on va enlever un petit quelque chose. Mais je pense que, comme moi, vous voyez un cube. Donc, enlever... pas de l'information, parce qu'il y a probablement plus d'informations dans ça que dans ce qu'il y a avant, mais enlever quelque chose à une forme, ça peut faire en émerger une seconde. Ça, j'aime bien l'art. Et ce que vous venez de voir, ça a été utilisé par Vasarely. Je pense que comme moi, ici, vous voyez un carré, mais vous en voyez un aussi ici. Ils sont aussi perceptibles l'un que l'autre. Un dépend d'une augmentation de quelque chose, l'autre dépend d'une diminution. On peut faire émerger visuellement des formes en enlevant quelque chose, en rajoutant du fond, ce qui revient un peu au même. Et il y a un modèle clinique de ça, qui est très consistant, qui est connu depuis des années, sur lequel il y a des travaux extensifs, c'est les douleurs sur membres fantômes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez probablement tous que si on ampute quelqu'un d'un bras, d'une jambe, il va avoir la perception du membre manquant, tout de suite. Ça peut se tasser, le cerveau peut se recaler de façon correcte, mais pour un nombre de patients qui n'est pas négligeable, certains vont garder la perception de ce qui manque, des années, parfois de façon extrêmement douloureuse et extrêmement invalidante. Il y a une très bonne façon, c'est tactile donc c'est facile, de percevoir ce que ressentent ces patients qu'on a amputés d'un bras, c'est d'amputer quelqu'un de quelque chose qu'il a de façon permanente et persistante. Là, j'ai une perception. Là. Et tous ceux qui sont mariés depuis longtemps, quand ils enlèvent leur bague, il leur manque quelque chose. Le cerveau peut se recaler dans ce cas-là, moins si on prive le cerveau de la totalité du doigt, toujours parce que l'art est informatif en matière de médecine et en matière de science. Vous connaissez certainement l'histoire de Frida Kahlo, qui est cette artiste peintre sud-américaine, qui a été victime dans sa jeunesse d'un accident terrible, un accident de tram, et qui en a gardé des douleurs chroniques qui ont été la source principale de son activité artistique et de son activité de peintre essentiellement. Et vous avez un de ses tableaux les plus emblématiques qui est La colonne cassée, où elle exprime des années plus tard la douleur qu'elle continue à ressentir de ce traumatisme qu'elle a eu et qui lui a laissé une douleur séquelaire qui est une douleur séquelaire de type douleur membre fantôme. Alors, on a vu qu'on peut faire émerger des formes en enlevant de la forme, on va dire, dans le système visuel. C'est la même chose dans le système somatosensoriel. Ça existe aussi dans le système auditif. Je vais essayer de vous faire entendre quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mais on a un problème d'écran qui n'est pas compatible entre le vidéoprojecteur et mon écran, donc je vais essayer de le faire. Je vais tout d'abord vous parler de ce phénomène psychoacoustique qu'on appelle le Tweaker Tone, qui est connu depuis des années, qu'on ne peut entendre qu'en l'écoutant d'une oreille. Donc on ne peut pas faire une démonstration en utilisant un ordinateur ou les baffles qui sont là au mur, mais ça peut être fait au casque de façon assez simple. Il suffit pour ça d'écouter ce qu'on appelle un bruit blanc à échancrure, c'est-à-dire un bruit qui contient toutes les fréquences duquel on a enlevé une petite partie et qu'on va écouter pendant quelques dizaines de secondes ou quelques minutes. Et à l'arrêt du bruit, parce que dans la zone qui a été échancrée, les neurones ne reçoivent pas d'informations, ils vont augmenter leur sensibilité, ils vont augmenter leur gain. Quand on arrête le bruit, au centre de l'échancrure apparaît une perception sonore, qui est une perception sonore tonale, c'est un ton, c'est une bip, qui correspond en fréquence exactement au centre de l'échancrure. Donc aussi dans le système auditif, on peut enlever de l'information et faire émerger une perception qui, pour le coup, ressemble en plus beaucoup à un acouphène, ce qui nous fait retourner à cette histoire d'audiogramme où finalement on enlève de l'information et le système, possiblement par une augmentation du gain, une augmentation de la sensibilité des neurones, va déclencher une perception. C'est là qu'on atteint le moment le plus délicat. Alors, ce petit logiciel a été fabriqué par des collègues avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer à l'IRCAM. C'est un logiciel qui permet d'entraîner les musiciens et les ingénieurs du son à détecter les fréquences qui sont rajoutées à une bande son ou les fréquences qui sont enlevées. Je l'ai un tout petit peu détourné de son utilisation normale et on va essayer de voir si on réussit à s'en sortir. Alors, on va choisir un bruit rose parce que c'est plus facile. Vous entendez ici un bruit rose. Ce bruit rose, c'est un bruit qui décroît en fonction de 1 sur F. Rien n'émerge. Je pense que, comme moi, vous entendez quelque chose qui est assez plat. Il n'y a pas de fréquence qui sort. On va... rajouter une fréquence. 15, parce que ça devrait sortir un peu mieux. Ici, vous avez une fréquence qui sort, qui doit être à 3 ou 4 000 Hz, et elle ressort très distinctement. On va faire maintenant l'inverse. On va enlever cette fréquence. Là, j'ai enlevé le spectre. Et vous allez écouter ce son-là, duquel n'émerge pas grand-chose. Si vous écoutiez au casque, vous pourriez entendre les berges de la perte qui peuvent sortir un tout petit peu, mais en fonction de l'acoustique de la salle, ça peut ne pas sortir ou pas. Et il est très probable que quand je vais couper le filtre, vous allez retrouver le bruit rose de tout à l'heure, mais il ne va pas vous sembler si plat. Une fréquence va émerger. Vous entendez la fréquence qui sort là? C'est le même bruit rose que tout à l'heure. Mais en écoutant le son échancré, on a augmenté la sensibilité des neurones qui codent pour cette fréquence. Et quand on vous fait entendre le bruit rose, eh bien la fréquence émerge. Si vous l'écoutez pendant 30-40 secondes, il va reprendre son côté plat. Pour moi, c'est bon, là, il a repris son côté plat. Il n'a pas changé, hein. C'est juste mes neurones qui sont à la tête. Finalement, on y est arrivé. Alors... ce que je vous ai fait entendre là, c'est des illusions perceptives. C'est on enlève quelque chose et finalement on fait percevoir quelque chose qui émerge du fait qu'on a retiré. Et ça pose en fait la question de ce qui est le fond, la forme, les contrastes et les berges. Pour qu'il y ait une perception qui émerge d'un fond, il faut qu'il y ait un contraste. Il faut qu'il y ait une discontinuité entre ce qu'est le fond et ce qu'est la forme. Si on retourne à notre histoire d'audiogramme et d'acouphène qui décrit en fait l'image en miroir de la perte auditive, ça peut être interprété de deux façons. Soit ça c'est le fond, ça c'est la forme, ou inversement. Soit il y a une discontinuité entre ça et ça, et finalement, cette discontinuité va faire émerger une forme parce qu'il y a un contraste au niveau de la berge de la perte auditive. Pour rendre les choses plus claires, j'ai essayé de vous expliquer ça en utilisant le système visuel parce que c'est plus commode. Vous avez ici le président Lincoln, et on va juste s'occuper de contraste entre le fond et la forme. Et vous voyez sortir le président Lincoln tout autant, là, que là. C'est la même image, hein. Elle a juste été modifiée avec un logiciel Photoshop, en l'occurrence, sans faire de publicité. Et maintenant, on va s'occuper que des berges. Toujours le président Lincoln. Faire émerger des formes, c'est, on peut regarder le paysage en complet, on peut regarder que les grands contrastes, on peut regarder que les berges, mais de toute façon, on fait émerger des formes entre le fond, la forme, la berge entre le fond et la forme. Tout ça, finalement, pour le système visuel, c'est la même chose. Juste parce que j'aime toujours l'art, il y a d'autres façons de décrire le président Lincoln. Vous connaissez certainement ce tableau de Salvador Dali, qui est Gala contemplant la mer Méditerranée, qui fait apparaître le président Lincoln quand on le regarde à 18 mètres. Donc ceux du fond devraient voir le président Lincoln, ceux qui sont tout près n'ont qu'à plisser les yeux, ils vont voir le président Lincoln, tout à fait. Donc, on a une propension à faire émerger des formes de n'importe quoi, mais dès qu'on aide un tout petit peu le système, en mettant des berges et en mettant du contraste, ça sort bien sûr tout de suite. Cette histoire de fond de forme, elle a été explorée dans le système visuel depuis des lustres. Cette illusion date de 1915, donc c'est pas hier. Et vous pouvez voir soit des visages qui se font face, soit un vase. C'est soit vous regardez les vases, le vase, soit vous regardez les visages. Soit le vase, soit les visages. Mais les deux ensemble, c'est pas possible. Il y a un switch entre les deux qui se fait dans votre cerveau en termes perceptifs, entre l'un et l'autre. Ça a aussi été utilisé, toujours par le même Vasarely, dans ce magnifique tableau qui s'appelle Catch, où on a deux personnages qui s'entremêlent, soit l'un et le fond, soit l'un et la forme, soit l'un et la forme et l'autre le fond, mais les deux ensemble, c'est très compliqué. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça existe dans le système auditif? La réponse est oui. Alors je vais vous faire entendre, toujours parce que c'est mieux avec un peu d'art, l'hymne à la joie de Beethoven, dans une version qui n'est pas très élégante en termes musical, mais c'est ce que j'ai réussi à faire de mieux. Vous allez entendre ici des notes qui sont insérées dans du silence. Le fond, c'est du silence, et les notes sont des notes qui sont plaquées sur le silence. On va se remettre au début, si on peut, sinon on va recommencer. Maintenant, on va faire l'inverse. Vous allez entendre des notes tenues dans lesquelles on a inséré des silences. Comme moi, vous avez entendu caché dans les notes tenues, la mélodie, qui était très distincte, pas jolie, hein, d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut faire de la musique. Mais dans les deux cas, vous avez perçu la forme, hymne à la joie, dans sa version traditionnelle, les notes dans le silence, mais dans sa version un tout petit peu modifiée, que sont les silences dans les notes tenues. Et on retrouve donc là cette dualité entre le fond et la forme. Et si vous essayez de voir le moment où vous percevez la note, en fait, c'est juste au moment de la zone de contraste entre les zones de silence et les zones de son. Et c'est en fait cette berge, ce contraste entre le silence et le fond sonore qui fait émerger la perception. La question, c'est existe-t-il aujourd'hui des modèles neuroscientifiques qui rendent compte de ça dans le système auditif? La réponse est oui. Alors, le plus commun et le plus en vogue actuellement, c'est le modèle dit d'adaptation du gain central. C'est que quand une perte auditive survient, les neurones vont augmenter leur gain, un peu comme si vous aviez un potentiomètre sur la gamme fréquentielle qui est altérée, et finalement, en sortie, vous avez une augmentation de la sortie qui correspond en fait exactement à ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ce que perçoit le patient, c'est finalement la suractivation de ces neurones en réponse à une sous-stimulation périphérique, et ça dessine l'image en miroir de la perte auditive. Mais il a aussi été montré que quand c'est des éléments, ça c'est chez l'animal, que quand on regarde les activations des cortex auditifs en réponse à des stimulations sonores qui sont des stimulations sonores encochées, un peu comme dans le speaker tone de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait entendre des sons dans lesquels il y a des encoches, eh bien les berges de l'encoche sont surreprésentées dans les cortex auditifs et rendent compte là aussi d'un traitement spécifique des berges entre les zones stimulées et les zones non stimulées, ce qui est exactement ce que j'ai essayé de vous faire entendre avec mon histoire d'hymne à la joie tout à l'heure, c'est-à-dire que le contraste entre le fond qui est silencieux et la forme qui est sonore, ou le fond qui est sonore et la forme qui est silencieuse, finalement, sont à l'origine de l'émergence de la forme auditive, en l'occurrence de la musique que vous avez entendue. On est parti de l'idée que beaucoup de patients avaient des acouphènes, que cet acouphène était probablement lié à une perte auditive périphérique, mais qu'il y avait, parce que la perte auditive périphérique existait, une neuroplasticité centrale, c'est-à-dire des modifications de la façon dont le cerveau va traiter l'information auditive. On a vu qu'on pouvait analyser ça en termes de forme, d'émergence de forme et de contraste entre des zones qui sont correctement stimulées et des zones qui sont pas correctement stimulé. Et finalement, maintenant, on va s'intéresser à essayer de comprendre ce qui se passe à un niveau encore plus global, c'est-à-dire au niveau des réseaux de neurones à l'intérieur du cerveau, et de voir si on peut essayer maintenant de déterminer quels sont éventuellement les corrélats neuronaux de la présence d'un acouphène chez les patients. Je vais vous dire tout de suite que la réponse n'est pas claire. C'est une lutte de tous les instants chez les cliniciens et les spécialistes de l'imagerie que d'essayer de retrouver la trace objective de la perception acouphénique chez les patients. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse certaine. On a utilisé à la fois de l'électrophysiologie, en particulier la MEG, avec des éléments qui laissent à penser que dans les cortex temporaux, c'est-à-dire dans les zones où se situent les cortex auditifs, il y ait une dérégulation en particulier de la balance entre les rythmes alpha et les rythmes delta. Les rythmes alpha sont des rythmes qui sont les rythmes, on va dire, de repos du système cérébral. Et il a été montré que chez les patients qui ont des acouphènes, en tout cas certaines études semblent le montrer, que l'importance des rythmes alpha était spécifiquement diminuée au profit de rythmes delta qui sont des rythmes plus lents. Et il a donc été supposé que les rythmes delta pouvaient driver l'anomalie des rythmes alpha et que ce soit en fait une mauvaise communication entre les aires sous-corticales, en particulier le thalamus, et les cortex auditifs qui soit à l'origine de certains acouphènes. On a utilisé aussi de l'imagerie qui s'intéresse à la consommation d'oxygène local, que ce soit en imagerie fonctionnelle ou en PET scan, avec des hyperactivités corticales qui pourraient correspondre, au moins chez certains patients, à la présence de l'acouphène, alors que l'acouphène est moins présent, et finalement l'hyperactivité dans les cortex auditifs soit moins importante. Mais toutes ces données sont extrêmement parcellaires, les séries sont petites, il y a une grande hétérogénéité des patients et on n'a pas de réponse pour l'instant et de certitude quant à ces anomalies. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quand on fait des études chez l'animal en faisant des enregistrements directs au niveau des cortex, il semble bien que chez les rats ou les cochons d'Inde, gerbilles ou autres animaux qu'on utilise pour ces expériences, ont des signes d'acouphènes, des signes comportementaux de présence d'acouphènes, eh bien, il y a une réorganisation des cartes corticales, probablement une augmentation de l'hypersynchronie des neurones, et que finalement, il y a certainement, en tout cas au niveau des cortex auditifs primaires, des anomalies qui pourraient sous-tendre la présence de l'acouphène chez l'animal, mais on n'a pas d'éléments de certitude avec les techniques d'imagerie actuelles chez l'homme. Et la grande tendance actuelle, pour essayer d'expliquer pourquoi certains patients vont être si invalidés et d'autres non, c'est d'impliquer en fait des réseaux de neurones qui n'impliquent plus simplement les cortex auditifs primaires ou secondaires, mais des grands réseaux de neurones qui vont aller au-delà du système auditif et s'intéresser en particulier au réseau de l'attention, au réseau de détresse et au réseau de mémoire. Avec, il commence à y avoir une littérature assez consistante, des activations qui sont synchrones entre ces différentes structures cérébrales, on peut parler de l'amygdale, on peut parler du cortex préfrontal, qui vont s'activer de façon spécifique avec une synchronie dans certaines gammes de fréquences d'activité neuronale et qui peuvent éventuellement expliquer, quand ces réseaux s'activent ou ne s'activent pas, la présence de symptômes que sont la détresse induite par l'acouphène, l'anxiété induite par l'acouphène, les troubles du sommeil induits par l'acouphène ou les problèmes de capture attentionnelle induits par l'acouphène. Un des réseaux qui, cliniquement, parce que si on écoute les patients, c'est finalement ça qui est le vrai problème, qui ressort le plus, c'est le réseau de saillance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, chez certains patients, la perception qu'est l'acouphène va ressortir, saillir, émerger de l'information sonore externe ou interne qui abreuve le cerveau et qui va faire que cette forme va ressortir spécifiquement dans la majorité des situations sonores. C'est une notion qui est extrêmement compliquée, qui relève à la fois de l'intensité, de la fréquence de l'acouphène, mais aussi de son rythme éventuellement s'il a un caractère rythmique, du contraste, du fait que ce soit un acouphène ancien ou nouveau, du fait qu'il y ait une charge émotionnelle sur l'acouphène ou une mémorisation spécifique de l'acouphène avec un apprentissage qui peut faire que certains patients vont parfois presque rechercher leur acouphène. Et ce réseau de saillance, rejoint un autre grand réseau qui est le système limbique, parce qu'il y a un grand overlap, il y a une grande superposition de ces deux réseaux. Et finalement, depuis une vingtaine d'années, on vit sur un modèle qui est un modèle qui a été développé par un neurophysiologiste américain qui s'appelle Pavel Jastrebov, qui dit que finalement le problème de l'acouphène, c'est l'activation anormale du système limbique, et que ce système limbique, l'activation du système limbique est responsable de l'acouphène clinique, alors que les patients qui n'ont pas d'activation de ce système limbique vont finalement avoir un acouphène qui n'est pas gênant. Eh bien, ce réseau de saillance recoupe très certainement ce système limbique, et finalement, il y a probablement, en utilisant des techniques qui sont des techniques d'analyse des troubles attentionnels qui ont été développés dans d'autres domaines, peut-être le moyen de mieux comprendre ce qui se passe chez ces patients. Je vais dire un mot des troubles psychologiques et des acouphènes. Il y a un vrai souci dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir l'affaire qui sont un peu antinomiques. Il y a la façon du patient qui dit « j'ai un acouphène » et finalement, parce que j'ai un acouphène, j'ai des problèmes psychologiques. Et il y a plutôt la vue médicale qui dit finalement, il y a beaucoup de patients qui ont des acouphènes et très peu qui vont en souffrir. Et finalement, les patients qui souffrent de leur acouphène sont ceux qui ont un trouble psychologique préexistant. Et parce qu'ils ont un trouble psychologique préexistant, eh bien finalement, ils vont développer une intolérance à leur acouphène. Et en fait, on a des données chez l'animal qui montrent que les deux visions de l'affaire sont probablement vraies. Quand on induit, c'est des papier qui est assez ancien, mais quand on induit un acouphène chez un animal, en l'occurrence c'était des rats, on va induire des comportements qui sont typiquement des comportements de rats anxieux. Et donc le fait de donner un acouphène à un rat va déclencher chez lui un mode de comportement qui est un mode de comportement anxieux. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication, mais simplement ici ces rats, parce qu'on leur a injecté du salicylate, qui est un produit autotoxique, vont développer un acouphène. Mais quand on leur donne le même salicylate, mais qu'en plus on induit une anxiété en leur injectant un produit qui est un produit médicamenteux stresseur, eh bien finalement, ils vont avoir un comportement de rat acouphénique qui est beaucoup plus important et beaucoup plus présent que s'ils n'ont que l'acouphène lui-même. Donc effectivement, le fait de rajouter de l'anxiété à un acouphène est probablement un facteur contre-productif, au moins chez le rat, de la perception de l'acouphène, effet qui est totalement aboli si on contrebalance l'activité néfaste du salicylate par un produit qui antagonise donc son activité. Finalement, le rat n'ayant plus d'acouphène, qu'il soit anxieux ou pas, finalement, il ne perçoit pas d'acouphène, il n'a pas de comportement de rat acouphénique. Et en pratique clinique, c'est un vrai souci, ça, parce que les relations entre acouphène et troubles psychologiques sont extrêmement complexes, à la fois parce que l'acouphène va induire une détresse psychologique, que la détresse psychologique peut majorer la perception de l'acouphène et qu'il n'est même pas du tout exclu que et l'acouphène et la détresse psychologique soient en fait le reflet d'une susceptibilité individuelle qui rendrait plus facile la perception de l'acouphène et plus facile l'état d'anxiété. Et ça, c'est aussi un des grands domaines de recherche clinique dans lequel on devrait faire des progrès dans les années futures, c'est d'essayer de désimbriquer un peu cette relation qui est une relation complexe, qui existe probablement, mais pour laquelle on n'a pas de lien de causalité pour l'instant clairement défini. Alors, on va en venir maintenant à la dernière partie de la présentation, c'est que peut-on faire finalement ? Parce qu'en tant que clinicien, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de rendre service aux patients. Il existe d'ores et déjà des prises en charge qui sont des prises en charge qui ont reçu une certaine validation, qui ne fonctionnent pas chez tous les patients. Il n'y a pas de panacée universelle, il n'y a pas de méthode unique qu'on pourrait adapter à tous les sujets, à tous les patients. C'est une prise en charge qui est plutôt multifactorielle, multimodale, multidisciplinaire, qui va permettre d'essayer de soulager au mieux les patients en utilisant les méthodes que je vais vous citer ici. La première, c'est bien sûr, et quand c'est possible, de déterminer la cause périphérique et de la traiter. On a vu tout à l'heure que certaines infections pouvaient donner à la fois une perte auditive et des acouphènes. Si vous traitez l'infection, si vous restaurez l'audition, vous avez de bonnes chances d'améliorer l'état du patient. Il y a des maladies qui bloquent le fonctionnement des osselets, comme l'autospongiose, qui relève d'un traitement chirurgical, et 70-80% des gens qui sont opérés d'autospongiose vont voir leur acouphène diminuer en intensité, voire disparaître après l'intervention. Donc, il y a clairement des possibilités de traitement en périphérie. Il n'existe au jour d'aujourd'hui, comme je le disais en introduction, aucun traitement médicamenteux qui soit spécifique de l'acouphène, qui est l'indication d'autorisation de mise sur le marché, disant c'est pour traiter les acouphènes ou soulager les acouphènes. Mais on utilise en pratique courante bon nombre de médicaments qui ont tous une action centrale. Les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antiépileptiques, pour essayer de soulager les patients, à la fois pour essayer de décorréler l'état d'anxiété ou de dépression et la perception de l'acouphène. Et on a beaucoup d'espoir actuellement sur une nouvelle technique qui est l'injection directement dans l'oreille, en périphérie, de molécules qui pourraient agir sur la dérégulation des neurotransmetteurs qui est certaine, par exemple, après traumatisme sonore ou dans certains cas de pathologies inflammatoires, en particulier en utilisant des molécules qui sont des anti-NMDA ou des anti-apoptotiques, et peut-être à l'avenir, grâce aux travaux du professeur Petit, peut-être dans quelques années ou quelques dizaines d'années, l'adjonction de gènes pour compenser le déficit génétique qu'on aurait su déterminer. L'autre façon d'aborder le problème de l'acouphène, c'est de compenser la perte auditive. On a vu tout à l'heure que finalement, l'acouphène et la perte auditive, ce sont quasiment les deux faces de la même pièce. Et compenser la perte auditive avec le développement des aides auditives numériques aujourd'hui, c'est certainement une bonne façon de soulager les patients. On n'a pas de données scientifiques qui prouvent de façon randomisée, en double aveugle, comme il faudrait, que la prothèse auditive est utile. Mais en pratique courante, on s'aperçoit bien que si on améliore l'audition des patients, on améliore bien souvent la tolérance de l'acouphène. On peut utiliser aussi des techniques de masquage, dont l'idée est soit d'agir de façon comportementale en soulageant le patient, c'est-à-dire en enlevant la perception de l'acouphène pour la remplacer par quelque chose qui est beaucoup plus confortable. Certains ont développé l'idée que ça pouvait même assurer une sorte de, on va dire, rééducation du système auditif, on parle de retraining du système auditif, qui permettrait progressivement d'apprendre à défocaliser l'attention du signal perturbateur pour favoriser les processus attentionnels normaux. Là aussi, on a quelques études qui montrent que ça peut être utile, mais on n'a pas de validation scientifique dure, certaines de très bon niveau, qui permettent de défendre ce moyen thérapeutique comme étant un moyen thérapeutique optimal chez tous les patients. On utilise aussi beaucoup les psychothérapies, en particulier les thérapies cognitives et comportementales qui intègrent presque tout dans tous les protocoles des techniques de relaxation. Quelques études, là aussi, de bonne qualité, ont montré que quand on prend des patients qui ont un acouphène invalidant et qu'on leur fait suivre ces protocoles de thérapie cognitive et comportementale, eh bien, on obtient une diminution d'intensité de l'acouphène perçu, on obtient une diminution de la gêne, on obtient une diminution de la réaction anxieuse, on obtient une diminution de l'état dépressif, et ça soulage certainement beaucoup les patients. Et en combinant toutes ces approches, on obtient régulièrement des soulagements qui sont des soulagements effectifs, même s'ils ne sont pas spécifiquement et tous centrés ou ciblés sur l'acouphène lui-même, ce qui est une des limites de la prise en charge actuelle. D'où l'intérêt d'essayer de développer des techniques qui pourraient éventuellement améliorer l'arsenal thérapeutique. Et je vais vous parler de trois techniques qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. La première, c'est la stimulation magnétique transcrânienne répétée. L'idée, c'est finalement, grâce à un champ magnétique intense qui est appliqué sur le scalp, en particulier au niveau des cortex temporaux, mais pas que, on a utilisé différents protocoles de stimulation magnétique, l'idée est d'essayer de je vais utiliser un néologisme qui est très laid, mais de disrupter en fait ces réseaux entre corticaux anormaux, entre les cortex auditifs et les autres zones corticales qui pourraient être impliquées dans l'acouphène. On a certainement, et on a essayé de le mesurer dans une étude qui a été publiée en 2012, une modification d'activité certaine, tant mesurée en IRM fonctionnel qu'avec des potentiels évoqués auditifs tardifs, des activations cérébrales dans les cortex temporaux. Donc, clairement, la stimulation magnétique appliquée sur le cortex temporal fait quelque chose au cortex, resynchronise l'activité cérébrale, diminue l'hyperactivité telle qu'elle est mesurée par l'IRM fonctionnel. Le souci, et même si ça a une activité chez certains patients, ces modifications d'activité corticale ne sont pas corrélées aux résultats chez le patient. C'est-à-dire que certains patients ont de très bonnes améliorations, un retour à la normale de l'activité corticale, mais leur acouphène ne va pas changer. Et d'autres ont des modifications qui semblent plus légères, et pourtant, leur acouphène va s'améliorer. Donc finalement, on n'a pas non plus de certitude, ni quant à savoir ce qu'on fait exactement en stimulant avec ces champs magnétiques. Et quel que soit le protocole, il y a eu de nombreux essais de protocoles en utilisant différents paradigmes de stimulation, qu'en termes de résultats cliniques qu'on peut espérer obtenir chez certains patients. Et peut-être le plus gros travail qu'on a à faire dans ce domaine de recherche spécifique, c'est d'essayer de définir quel type de patient pourrait bénéficier de quel type de stimulation magnétique, de façon à faire des sous-groupes homogènes de patients qui pourraient répondre de façon élective et probablement un peu meilleure que de faire rentrer tous les patients qui ont des acouphènes et qui ont probablement des phénomènes différents au niveau cérébral. On utilise aussi beaucoup le neurofeedback actuellement. L'idée étant d'enregistrer en continu l'activité EEG, que ce soit par des capteurs EEG standards ou en MEG, et de demander au patient de modifier son activité cérébrale en lui demandant de remplir une tâche très simple qui est de faire passer ce poisson de cette zone-là à cette zone-là, simplement si ses rythmes cérébraux se modifient. Donc l'activité cérébrale est traquée en temps réel. Si le poisson bouge dans le bon sens, le patient sait qu'il est dans un état d'activité cérébrale profitable et il va laisser suivre le cours de son activité cérébrale. Et s'il réussit à mettre le poisson là-haut, qu'a-t-il fait ? En fait, il a normalisé ses rythmes alpha dans ses cortex temporaux. Et donc, c'est un peu comme si on vous entraînait à garder votre rythme cardiaque à 70 en contrôlant vos émotions, et vous avez le capteur de votre rythme cardiaque, et vous savez quand vous sortez des clous, à ce moment-là, vous respirez, vous vous calmez, vous retournez à 70. Si vous restez à 70, ben vous apprenez à vous relaxer, à rester à un niveau constant. Et bien, on peut faire la même chose en traquant l'activité cérébrale et en faisant donc du neurofeedback. Et ces collègues, donc, ils sont maintenant à l'université de Trento en Italie, mais qui avant étaient en Allemagne, ont montré que le neurofeedback normalisait le changement de l'activité alpha bien mieux que ne le faisait la RTMS et que c'était corrélé à l'amélioration clinique ressentie par le patient de la perception de son acouphène. Donc, ça reste disputé, c'est des petites séries, on n'a pas de certitude, c'est difficile d'appliquer ça en pratique quotidienne, mais on commence à avoir l'idée qu'on pourrait réentraîner de façon plus effective et plus ciblée l'activité cérébrale de façon à soulager les patients. On a, nous, à l'hôpital Pompidou, essayé de développer une autre idée qui est une idée plus on va dire, presque plus psychologique, c'est d'utiliser des techniques dites de réalité virtuelle, dont je vais vous dire un mot. L'idée, elle est fondée toujours sur l'analogie avec la douleur chronique et les douleurs post-amputation. On a vu qu'on ampute le système auditif, il va percevoir quelque chose, on ampute le système somatosensoriel, il va y avoir également une perception. Et les techniques dites d'immersion en réalité virtuelle sont utilisées depuis quelques années dans ce type de douleur chronique post-amputation pour soulager les patients, avec quelques éléments qui laissent à supposer que ça peut soulager les patients de façon persistante. En fait, la première étude, c'était simplement de donner aux patients l'illusion visuelle en le mettant dans un jeu de miroir qu'en bougeant la main valide, il avait l'impression visuelle de voir bouger sa main amputée. Et Ramachandran s'est aperçu que chez certains patients, ça avait un effet bénéfique et que ça soulageait la douleur. Et maintenant, grâce aux techniques de l'amélioration des techniques informatiques, des techniques vidéo et audio de rendu en 3D, on peut donner à des patients amputés, comme ici, l'impression qu'ils utilisent une main virtuelle comme si c'était la leur. Et dans le monde virtuel, le patient récupère ses deux mains. Et il peut utiliser sa main invalide, amputé, comme si c'était une main normale. Et là aussi, on obtient un soulagement de la douleur chronique. Et ce qu'on a, nous, essayé de faire, c'est de considérer que finalement l'acouphène était de perception auditive fantôme, de recréer ce qu'on a élégamment appelé un avatar, on a un avatar d'acouphène, qui permettait aux patients de manipuler dans un environnement 3D visuel et audio l'image de son acouphène spatialisé. On a donc créé des acouphènes en utilisant un logiciel qu'on a développé spécifiquement parce qu'une des clés du succès, c'était de faire que le son recréé ressemble vraiment parfaitement à l'acouphène lui-même. Et avec l'objectif théorique, donc, de donner au patient la possibilité d'agir volontairement sur la localisation spatiale de son acouphène, on verra tout à l'heure comment ça le faisait, de moduler, et possiblement de moduler l'activité des voies auditives de façon à faire perdre à l'acouphène son caractère intrusif. Alors, développement d'un setup qui était créé à partir de rien, c'est un système qui n'existait pas auparavant. Vous voyez ici un sujet qui a un visio-casque qui rend en 3D visuel la scène dans laquelle il se déplace et qu'on voit ici. Il a une baguette magique avec laquelle il est capable d'aller attraper le son et ensuite il peut l'entendre soit de son oreille acouphénique, si l'oreille acouphénique est droite, et puis ensuite le déplacer pour l'entendre de l'autre oreille, le mettre devant, le mettre derrière, le mettre au-dessus, l'éloigner pour l'entendre moins fort, voire le faire disparaître, et se déplacer dans un monde sonore qui lui permet éventuellement de masquer son acouphène. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, l'acouphène redevient un son exactement comme un autre. Si un son m'embête, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'interagir avec lui. Si je ne peux pas interagir, si quelle que soit ma position dans l'espace, l'acouphène est là, stické dans mon oreille, et que je ne peux pas interagir avec lui, il va rester agressif. Ça se présente comme ça dans la vraie vie. Donc on a adapté une cabine d'audiométrie qui est celle où sont réalisés les tests audiométriques à l'hôpital Pompidou. Vous avez ici l'appareil que vous avez vu avec le visio-casque qui est là. On a des systèmes de tracking en temps réel qui sont 4 caméras qui captent la position de la tête, de la baguette et du patient en temps réel. On va voir comment le logiciel display ça. On déplace la baguette et la tête et finalement le système c'est en temps réel où est la position de la tête et la position du son, et va spécifiquement envoyer dans le casque et envoyer dans le casque audio et dans le casque vidéo une image spatialisée du son. Le patient est fité là avec le casque 3D, le casque audio. Il va avoir une souris pour se déplacer dans le monde, la baguette qui lui permet de déplacer son acouphène. Il va rentrer dans une première pièce où on voit ici une table sur laquelle est posée l'acouphène. Il va prendre l'acouphène, il sera sur le bout de sa baguette, il pourra en faire exactement ce qu'il veut. Donc ça, c'est là, le patient vient de prendre le son, là, qui est aussi matérialisé par cette espèce de scintillement qui permet d'avoir en plus une fusion multisensorielle. Il y a à la fois une entrée tactile, une entrée visuelle et une entrée auditive qui vont faire que l'image va fusionner sur trois entrées sensorielles. Il est rentré dans le monde là par la porte, donc là c'était un monde sympathique, c'était la campagne, et le patient pouvait se déplacer dans le monde et déplacer l'acouphène à volonté. Les patients avaient vraiment l'impression d'être immergés. Des scores de présence, il y a des échelles de présence dans les mondes virtuels qui ont été développées, donc ils sont des scores assez élevés, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment l'impression d'interagir avec leur acouphène de façon consistante. Ils n'étaient pas plus anxieux avant et après. C'est une de mes préoccupations, c'était de savoir si le fait de jouer avec son acouphène pouvait déclencher un état de stress particulier. Finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Et la bonne surprise qu'on a eue, c'est de constater qu'après 8 séances, quand on mesurait les scores de sévérité d'acouphène 3 mois après la 8e séance, eh bien les patients qui avaient été immergés en réalité virtuelle avaient des scores moins élevés que ceux qui étaient simplement en liste d'attente et à qui on avait simplement promis qu'on pourrait leur faire ce type de prise en charge. Ça n'est pas une thérapeutique, ça reste pour l'instant un travail de recherche, je pense, mais qui laisse à penser qu'on pourrait probablement mieux comprendre ce qui se passe chez certains patients, pourquoi leurs processus attentionnels sont altérés dans certaines situations et pas dans d'autres. C'est complètement reproductible. On peut demander aux patients de faire toujours la même chose à plusieurs semaines d'intervalle, toujours dans le même monde. On peut enregistrer tous les paramètres en temps réel. En particulier, on pourrait envisager d'enregistrer à terme des paramètres EEG ou des paramètres plus objectifs. Et finalement, c'est possiblement quelque chose qui laisse la porte ouverte à certains développements thérapeutiques. Je voudrais juste dire un mot de conclusion en disant que l'acouphène est toujours un vrai problème. C'est à la fois un vrai problème de santé publique, c'est très fréquent, ça sera probablement de plus en plus fréquent dans les années qui viennent. On n'a aujourd'hui que des prises en charge qui sont des prises en charge palliatives, avec les thérapies sonores, les thérapies psychologiques et quelques médicaments qui nous aident. On commence à mieux comprendre ce qui se passe à la fois en périphérie dans la cochlée, mais aussi ce qui se passe dans les centres en termes de dysfonctionnement qui pourrait être le support de la perception anormale qu'ont nos patients et de la gêne qu'elle procure. Et qu'on développe actuellement des techniques qui sont des techniques un tout petit peu novatrices comme celles dont je viens de vous parler, qui n'ont pour l'instant pour aucune le rang de traitement utilisable en pratique quotidienne, mais qui laisse à penser que dans les années qui viennent, on pourra progresser pour le bien-être de nos patients. Et je voulais, juste pour terminer, remercier tous les collègues qui ont de près ou de loin contribué à la présentation que j'ai faite aujourd'hui, qui bien sûr, avec mon seul travail, n'aurait pas pu être donnée. Je vous remercie.